VOAfrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Afrique du Sud, le gouvernement a présenté un projet pour dépénaliser la prostitution dans l'espoir de lutter contre les violences faites aux femmes. L'offre et le recours à des services sexuels ne seront plus traités comme des délits en vertu de ce projet de loi présenté par le ministre de la Justice. Selon les associations, le pays compte environ 150 000 prostituées. Le ministre a déclaré devant la presse espérer que la dépénalisation réduira les atteintes subies par les travailleuses du sexe et que cela permettra un meilleur accès aux soins, moins de discrimination et de stigmatisation. L'Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés par le sida au monde, fait face à des violences croissantes contre les femmes. Selon la police, les viols ont augmenté de 13% l'an dernier et les fémicides ont augmenté de 52%. Dans Pretty Baby, Brooke Shields, un document présenté en avant-première au festival du film de Sundance aux États-Unis, l'actrice américaine Brooke Shields révèle avoir été violée au début de sa carrière hollywoodienne. L'ancienne top modèle a gardé l'identité de son agresseur secrète. « C'était comme une bagarre, j'avais peur de me faire étouffer ou quelque chose comme ça », témoigne l'actrice dans le documentaire, précisant qu'elle était pétrifiée et ne pensait qu'à rester en vie et partir. Après l'agression, elle se souvient avoir téléphoné à un ami qui travaillait dans la sécurité, qui lui a alors dit qu'il s'agissait d'un viol. Ce à quoi elle a répondu « Je ne suis pas prête à le croire ». L'ancienne joueuse de tennis australienne d'origine serbo-croate, Jelena Dokić, a déploré les commentaires insultants sur son physique sur les réseaux sociaux à l'occasion de sa couverture de l'Open d'Australie. L'ancienne championne devenue consultante réalise des interviews télévisées sur les courts avec les joueurs après les matchs. Selon Dokić, les commentaires insultants sur son poids viennent du monde entier, mais particulièrement de Serbie. Beaucoup de ces personnes sont des femmes, a-t-elle ajouté, parlant de commentaires malfaisant et répugnant. Dokić, qui a gagné 6 titres, s'est fait connaître à l'âge de 16 ans, en 1999, en battant la numéro 1 mondiale Martina Higgins dès le premier tour de Wimbledon. Certains sociologues définissent la solitude comme l'un des fléaux de société du 21e siècle. Mais quelle est l'ampleur de cette solitude? Selon une étude, en France, 20% des plus de 15 ans, soit 11 millions de personnes, se sentent seules et 80% en souffrent. Même une vie sociale dense ne protège pas du sentiment de solitude, souligne le rapport de la Fondation de France. Plus une personne est pauvre, plus ses liens sociaux se fragilisent, estiment les auteurs du rapport. Les personnes au foyer, principalement des femmes ou sans diplôme, sont plus susceptibles de se sentir isolées, car le travail domestique à temps plein accentue la sensation de retrait du monde social et les métiers peu qualifiés comportent une faible valeur ajoutée en matière relationnelle, relève l'étude. La solitude touche davantage les parents solos qui sont généralement des mères.
Parole de femme.
Au Au Sénégal, la majorité des agriculteurs ne disposent pas de dispositifs et infrastructures adaptées pour la conservation des fruits et légumes. Avec le réchauffement climatique, ils sont confrontés à la perte post-récolte. Une jeune ingénieure a mis sur pied une solution écologique et abordable qui pourrait répondre à leurs besoins. Un reportage d'Alison Fernandez.
Ndeye Marine Diegen est ingénieure, entrepreneuse sociale et activiste. Cette jeune Sénégalaise aux multiples casquettes a monté son entreprise à l'âge de 17 ans avec l'idée de trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Parmi eux, la pollution engendrée par les pneus que la jeune femme a décidé de recycler.
On voit souvent les pneus un peu partout sur Dakar qui sont jetés parce que les gens n'ont pas de... Il n'y a pas de chaîne de gestion et de récupération des pneus au niveau du Sénégal. Donc nous, à travers ce projet-là, on a créé une chaîne de gestion et de récupération et de réutilisation pour les pneus. Donc on améliore aussi le cadre de vie des populations.
Avec ces pneus, mais aussi des bouteilles et des sacs en plastique, Ndeye crée des hangars de stockage pour les agriculteurs. Une solution économique et écologique visant à diminuer les pertes post-récolte. C'est en sillonnant les zones rurales du Sénégal et en constatant l'étendue de ces pertes que la jeune femme a décidé de travailler à une solution permettant d'allonger la durée de vie des légumes.
Moi, c'était ça ma question. À quoi ça sert de produire tout ça si après on perd tout? On pourrait dire que le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance alimentaire si on perd un tiers, par exemple, des pommes de terre. C'est pas possible. On importe la pomme de terre alors que la pomme de terre du Sénégal, elle est très bonne.
Il y a 7 ans, le tout premier hangar voyait le jour ici, à Kayar, à une soixantaine de kilomètres de Dakar. Ndeye et son équipe programment les quelques réfections à réaliser.
On va tout enlever, la porte et tout ça. C'est quand même quelque chose qui dure dans le temps, qui est là, qui est présent et qui a permis à une centaine d'agriculteurs en fait de conserver. Mais aussi, cette conservation-là, ça leur permet de déstocker au bon moment.
Et ainsi d'améliorer leurs revenus. Ici, en temps normal, on stocke pommes de terre, oignons et arachides. Grâce à ce hangar qui permet de réduire la température d'environ 5 degrés par rapport à l'extérieur, la durée de vie d'une pomme de terre peut passer de 3 semaines à 3 mois et les oignons peuvent être conservés pendant 6 mois. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Au Caire, depuis les années 80, trois lignes de métro transportent chaque jour près de 2 millions de voyageurs. Pour la première fois, le métro de la capitale égyptienne a ouvert les postes de conducteurs aux femmes. Deux conductrices ont été recrutées et sont aux commandes des rames de la ligne 3. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Hend Omar est diplômée en commerce, une formation qui ne la disposait pas vraiment à conduire en train. Mais il y a quelques mois, elle découvre une offre et décide de se jeter à l'eau.
Quand j'ai vu l'annonce pour le poste, j'étais tellement motivée. J'ai senti que je pouvais réussir, surtout que c'était une première en Égypte pour les femmes. Et je me suis dit que ce serait formidable d'être pionnière dans ce domaine.
Des encouragements, Hend Omar en a eu besoin, d'abord pour l'examen d'entrée, mais aussi et surtout pour sa formation.
La formation m'a préparé à être responsable du train sans avoir peur. C'était progressif. Au début, il y avait un chauffeur accompagnateur pour m'apprendre. Nous avons conduit sur une piste d'essai et après cela, je me suis entraîné sur la troisième ligne du métro après les heures de trafic lorsqu'il n'y avait pas de passagers. Plus tard, j'ai commencé à conduire avec des passagers, mais un chauffeur expérimenté était toujours avec moi dans la cabine. Tout cela m'a aidé à ne pas avoir peur car j'ai été entièrement responsable du métro.
Au final, sur une promotion de 30 aspirants conducteurs, hommes et femmes, encadrés par la Régie autonome des transports parisiens et l'Autorité nationale des tunnels égyptiennes, deux femmes ont obtenu le droit de conduire des rames de métro, Hend Omar et Suzanne Mohamed. Cette dernière a dû convaincre sa famille qu'elle était apte à faire ce métier.
Certains membres de ma famille ont encouragé l'idée, mais d'autres avaient des inquiétudes, ce qui était normal et attendu. Ils craignaient que le métro ait 8 voitures, pas seulement une voiture. Il y a beaucoup de passagers, c'est une grande responsabilité. Mais quand ils ont vu les démarches que j'avais faites et que l'entreprise nous accompagnait, pas à pas, ils ont été rassurés et ont accepté la situation.
Suzanne confie que beaucoup de passagers sont encore surpris de voir une femme conduire un train. Dans ce pays musulman aux mœurs conservatrices, il faudra sans doute du temps pour que de nombreuses femmes embrassent le métier de conductrice de train. Les deux conductrices du métro du Caire, quant à elles, espèrent bien ouvrir la voie à d'autres femmes.
Si jeunesse pouvait.
Nenana Binti parlait avec une sœur en Swahili, fournit aux adolescentes kenyanes des informations et des conseils sur la santé reproductive par le biais d'une application mobile et d'un numéro gratuit. Plus de précisions avec Arzuma Compaoré.
Les récentes données au niveau national montrent qu'au Kenya, une adolescente sur 5 est mère à l'âge de 19 ans. Le pays se classe au 3e rang mondial des grossesses chez les adolescentes. Des ONG tentent d'apporter leur concours par l'éducation sexuelle via le numérique. Une application mobile appelée Nenana Binti, qui signifie « parler avec une sœur » en Swahili, fournit aux adolescents des informations détaillées sur la santé reproductive et offre une interaction directe avec des professionnels et des conseillers à distance. Un numéro de téléphone est également disponible. Janet Awino fait partie des quelques 5000 jeunes qui utilisent ces plateformes, notamment pour l'éducation au planning familial.
Je parle avec une personne que je ne peux pas voir, ce qui m'aide à parler librement. On ne peut pas parler avec n'importe qui. Certaines personnes ne savent pas garder les secrets.
Virginia Mushira, mère d'un enfant, dit qu'elle aurait pu bénéficier des informations sur la sexualité fournies par ce type d'application.
Ma mère et mon père n'étaient pas du genre à m'apprendre ces choses-là. Nous nous retrouvions à table pour manger, puis chacun allait de son côté. Ils parlaient d'autre chose, mais pas de sexualité. Ils ne m'auraient jamais parlé de ça.
Selon une étude réalisée en septembre 2022 par le ministère de la Santé kényan, le manque d'informations sur la santé reproductive a contribué à une augmentation des grossesses chez les adolescentes. Les experts affirment que de nombreux adolescents ont peur de parler de sexualité avec leur famille et que l'accès à ces informations peut grandement les aider.
Beaucoup de clients qui appellent, surtout s'il s'agit d'adolescents, veulent en savoir plus sur les menstruations. D'autres appellent pour s'informer sur les jours infertiles. D'autres pour connaître les effets des contraceptifs.
Rita Obonio, du réseau de santé reproductive.
Certains veulent retourner à l'école, alors nous les y ramenons. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas continuer l'école, alors nous leur donnons des compétences. Certains reçoivent également des cours sur l'employabilité et la création d'entreprises.
Le ministère de la Santé du Kenya a adopté en juillet une politique nationale de santé reproductive sur 10 ans qui vise notamment la santé reproductive des adolescents et des jeunes adultes. Les autorités espèrent que des initiatives telles que Nenana Binti aideront à réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes dans les années à venir.
Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
En Côte d'Ivoire, pour lutter contre la déforestation et la désertification, les agriculteurs optent pour un concept moderne, la culture hors sol. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies, est allée à la rencontre d'étudiants en agriculture qui expliquent les avantages de ce procédé.
Au lycée agricole de Bingerville, dans la banlieue d'Abidjan, les étudiants sont à l'œuvre dans des serres sous forme de préaux. Ils écoutent religieusement les consignes de leur formateur du jour, Aboulaye Sanogo, technicien agricole.
Bonjour, bonjour, bonjour. Rentrez dans la serre, chacun suit sa parcelle et vous commencez déjà le tutérage.
Ce module de formation s'appelle la culture hors sol, qui consiste à cultiver des végétaux dans des contenus naturels autres que la terre. La première étape de ce cours est le palissage. L'étudiante Marie-Léonce Conan explique.
Ils sont en train de faire les côtes pour faire le palissage, pour permettre à la tomate de grandir.
Cadognon Fanta, après l'arrosage des laitues, se dirige vers le compartiment des piments.
Le pH consiste à enlever les vieilles feuilles au niveau des plantes et ça permet à la plante d'avoir assez d'éléments nutritifs pour augmenter sa productivité.
Les innovations utilisées dans la culture hors sol présentent de nombreux avantages, explique Aboulaye Sanogo, formateur au lycée agricole de Bingerville.
Vous avez la possibilité de cultiver toute l'année. Alors, sous serre, nous avons la possibilité de produire en quantité et en qualité sur une superficie réduite.
Non loin de là, dans le village de Santé-Bingerville, chez des particuliers, Catherine Kondou, Suzanne Amondi et Germaine Touré exploitent une superficie de 1600 mètres carrés. Catherine explique leur travail.
Ici, nous cultivons les laitues. Nous cultivons aussi les concombres et haricots kilomètres, de l'aubergine, du gombo asiatique. Nous avons aussi de la tomate. Nous sommes au nom de 3 femmes. Nous avons 2 techniciens qui sont avec nous.
Frédéric Kwame est l'un des techniciens agricoles qui accompagne ces femmes.
La phase de la transplantation, c'est faire de la pépinière dans les pots, bien dans les seaux, bien dans les sacs.
Stéphane Yao, de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, souligne le caractère moins pénible de la culture hors sol.
C'est encore plus avantageux que de prendre un espace nettoyé, creusé, tout ça, c'est encore encombrant. On a un petit espace qu'on veut rentabiliser. C'est pourquoi on a opté pour la culture hors sol.
Et c'est à Georges Gouré-Billouan, le superviseur agricole, de relever les types de fibres utilisées.
Dans ce système de culture, il y a 2 types de substrats que les gens utilisent. Il y a les fibres de palmier et puis les fibres de coco. C'est ça qui remplace le sol ici.
Grâce à un projet du gouvernement portant sur une exploitation de 124 000 hectares dans 6 départements de la Côte d'Ivoire, la culture hors sol va connaître une expansion dans le pays. Il permet de trouver un travail rentable, nourrir avec des produits entièrement bio et en même temps préserver la nature. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
L'agricultrice Valérie Kaindo fait partie des 450 000 personnes déplacées suite à l'offensive menée par le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire a affecté l'approvisionnement en nourriture dans la région, bloqué les principales routes commerciales et perturbé l'agriculture, qui est le pilier de l'économie locale. Dilidico nous en dit plus.
Trier les grains de maïs est la seule chose qui reste à faire pour les agriculteurs comme Valérie Kaindo, qui ne peuvent plus travailler à Goma, dans l'est du Congo, depuis que des combattants rebelles se sont emparés de ses champs. Elle a été obligée de fuir sans ses 8 enfants.
En ce moment, je n'ai rien à faire. Au village, l'OM23 a installé son camp dans mon champ. C'est dans mon champ de maïs qu'ils sont basés. Ils ont détruit mon champ. Ils ont pris toute la récolte, je n'ai plus rien maintenant. Et c'est là que j'avais l'habitude de m'approvisionner en maïs. Je passe mon temps ici maintenant. J'espère que Dieu et le président de la République feront rouvrir la route et que les rebelles quitteront mon champ. Je vais retourner immédiatement à la culture du maïs pour continuer à approvisionner cette usine.
La minoterie de maïs Bouéteta, où travaille Valérie Kaindo, a dû réduire sa production de 90%. Les retombées des problèmes de la chaîne d'approvisionnement se font sentir dans toute la ville de Goma, où les ménages dépendent de la farine de maïs pour préparer le plat local, l'ougali.
La mannequin congolaise Anado Kabika s'est fait un nom dans le milieu de la mode à New York avant de se lancer dans la chanson. Issue d'une famille polygame de 18 enfants, elle affirme depuis son enfance ses choix personnels pour tracer sa propre carrière. En janvier 2023, elle est venue nous rendre visite dans les studios de La Voix de l'Amérique pour la sortie de son premier single. Je lui ai tendu le micro.
Tout a d'abord commencé quand j'avais l'âge de 8 ans. Je jouais au foot, je suis née avec le talent du football. Et malheureusement, ma famille m'ont pas accompagnée pour que ça devienne professionnel. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à danser, je crois que c'était à l'âge de 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, je dansais. C'était aussi compliqué pour la danse. Et jusqu'à ce qu'ils m'ont encore interdit de danser, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui venaient dans la danse. Et à l'époque, j'avais aussi plusieurs insécurités de mon corps. Les gens se moquaient de moi. Et c'est de là que je me suis décidée, non, pourquoi ne pas être mannequin? Et c'est de là que la mode a commencé. J'ai commencé à défiler, c'était trop difficile aussi avec ma famille, tout ce que je faisais, ils refusaient. Et j'ai tellement insisté, on m'a frappé, ils se sont battus jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé avec le mannequinat au Congo. J'ai participé dans 3 compétitions dans mon pays, j'étais première dauphine et la dernière compétition c'était en 2016, je fus première dauphine Miss Congo. Après la première compétition que j'avais participé, ça m'a emmenée au Japon, j'ai défilé dans plusieurs pays et jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis en continuant la mode et je fais aussi la musique. Vraiment, la musique, j'ai eu le coup de cœur, c'était en 2018. C'est là où j'ai commencé avec mon premier enregistrement. Et avec le premier single que j'ai sorti, c'était au mois de décembre. Mais malheureusement, je pouvais pas promouvoir puisque c'était juste à des pas que je puisse venir aux États-Unis. C'était l'année en 2019. Donc, j'avais que 1 mois pour la promotion locale. Mais c'était trop dur. Mais sinon, la musique, j'ai toujours été passionnée de la musique. Mon défunt oncle, il s'appelle Kinkester Minia. Donc, tout a commencé par lui et jusqu'à ce que même sa musique aussi a ébloui la famille. En même temps, je suis trop fan de la musique. Je suis trop fan des lyrics. Surtout que j'ai trop d'inspiration et je me suis dit pourquoi n'est pas pour montrer au monde mes inspirations, les émotions et au lieu d'écrire des livres, pourquoi n'est pas chanter. Le titre de la chanson c'est Give Me Your Love. Give Me Your Love, je suis en train de parler d'une femme qui a tout donné, qui donne son amour, mais malheureusement, son homme ou son mari ne l'aime pas. Donc j'ai tout donné, tout ce que l'homme m'a demandé. Je ne sais pas s'il y a plusieurs sortes d'amour, mais malheureusement, l'amour que je suis en train de donner à mon homme, je ne l'ai pas en retour. Et je me plains, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut créer ou inventer pour que l'homme puisse m'aimer.
Je t'ai donné mon amour.
Le but était de sortir un album. Comme ça fait un peu longtemps, mon équipe de production a décidé de ne pas sortir l'album, de commencer par le single. Mais le projet de l'album, nous sommes presque prêts. C'est l'album de 12 chansons. Si on décidait un jour de rajouter encore d'autres chansons, comme c'est encore dans le laboratoire, on va le faire. Mon style, c'est du afrobeat, afropop, un peu de la rumba. Je garde toujours un peu mes origines de mon pays. Donc c'est un peu le mixage, ce métissage de tout.
Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.